Midi 1, Mariam, Matin Famille.
Et merci à vous de nous rejoindre sur les ondes de Midi 1. Nous sommes ensemble également sur Midi1.com et notre application Midi 1 Radio. Alors on en parle beaucoup, mais comprenons-nous réellement ce qu'est qu'un pervers narcissique? Une pathologie qui peut toucher aussi bien les hommes que les femmes, ces personnes qui peuvent devenir donc dans certains cas toxiques pour leur entourage. Alors on reçoit aujourd'hui, notre spécialiste en psychiatrie, Dr Atman Lorabi. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous? Et merci pour l'invitation.
Merci à vous de répondre toujours présent à notre invitation sur Midi 1. Alors, qu'est-ce qu'un pervers narcissique pour commencer, Dr Lorabi?
Alors, super. Vous avez parlé de pathologie. Alors, le pervers narcissique renvoie plutôt à un trouble de la personnalité. Oui. Et comme son nom l'indique, on est en train de parler du trouble de la personnalité narcissique, c'est-à-dire que c'est une personne qui, dans son comportement et dans ses relations avec les gens, va se montrer extrêmement imbu de sa personne, entre guillemets, à toujours se mettre en avant, enfin, faire preuve d'un amour excessif pour soi, quelquefois aux dépens des autres. Mais qu'est-ce que ça sous-entend, le trouble de la personnalité narcissique? C'est que, au contraire, en fait, dans la construction de la personnalité, il y a des espèces de lacunes qui n'ont pas été comblées au niveau de la construction de l'ego. C'est justement ces lacunes-là qui vont pousser la personne à avoir un certain type de comportement de manière rigide et pérenne, parce que quand on parle de trouble de la personnalité, on n'est pas en train de parler d'une période de notre vie, on parle d'un schéma constant d'interaction, n'est-ce pas? Donc, obligatoirement, il y a cette dimension de rigidité, et il y a aussi la dimension de détérioration des relations interpersonnelles. Quand on a un trouble de la personnalité de manière constante, il y a une souffrance au niveau des relations interpersonnelles, et il y a à un certain moment, on avait un retentissement sur le plan de la vie sociale. Donc, et comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, on en parle souvent, mais est-ce qu'on comprend réellement ce que c'est? Moi, l'impression que j'ai, c'est que on en parle peut-être un peu trop fréquemment et à tort. Parce que quand on parle de perversion narcissique, il faut savoir que c'est un concept de psychologie psychodynamique, qui a été énoncé, on dira dans les années 80, mais qui à ce jour ne fait pas l'unanimité parmi les professionnels de la santé, surtout que justement quand c'est utilisé à tort et à travers, ce qu'on constate, c'est que ça induit encore plus de souffrance au niveau des relations qui sont impactées par ce type de fonctionnement. Moi, je préfère parler de fonctionnement pervers narcissique plutôt que de parler d'une personne perverse narcissique.
D'accord.
Et le fonctionnement de cette personne, pour aller directement au vif du sujet, il va se caractériser par un certain nombre de choses qui reviennent souvent, comme par exemple le fait de ne jamais avoir tort avec la personne qu'on a en face de nous, le fait de briller toujours à nos dépens, c'est-à-dire la personne qu'on va avoir qui a un fonctionnement pervers narcissique va tout le temps se mettre en avant et nous rabaisser en même temps, pas juste se mettre en avant. C'est quelqu'un qui va toujours rejeter la responsabilité de ses manquements, de ses échecs, de ses coups de colère, de ses violences, de ses maltraitances sur la personne qu'il a en face d'elle. C'est très important. Et au final, ça aboutit à une maltraitance constante. Une maltraitance constante. Et ce qui est, je dirais, un peu horrible, entre guillemets, pour les personnes qui souffrent d'une interaction avec ce type de personne, c'est que le plus souvent, elles constatent que cette personne est absolument charmante avec le reste du monde, et puis, dans le cadre de la vie de couple, mais pas seulement, parce que quand on parle de relations, enfin, de pervers narcissiques, il y a aussi la dimension de la vie professionnelle.
D'accord.
Parce que c'est aussi quelque chose dont on parle souvent.
D'accord. C'est important, ça. aussi. Vous faites bien d'en parler, oui.
Absolument, parce qu'en fait, ce qui rend possible le fait pour une personne lambda de tomber ou de s'enfermer dans une relation avec une personne avec des caractéristiques de pervers narcissique, c'est la notion d'autorité, c'est la notion de dépendance. Alors quand je dis autorité, ben, ça, par exemple, dans le milieu de la vie professionnelle, ben, c'est l'autorité hiérarchique, tout simplement. Oui. Quand on parle de vie familiale, ben, y a plusieurs relations qui se jouent. Ça peut être entre l'époux et son épouse, ou inversement, ça peut être un des parents avec les enfants. Donc il y a d'abord, il y a ce prérequis de dépendance, d'autorité et de, au final, de domination. Hein. C'est ça qui rend possible cette boucle négative, hein, dans les interactions.
Vous avez beaucoup parlé de maltraitance, docteur Lorabi. Est-ce que c'est un objectif de cette personne qui souffre donc
Merci pour la question, mais en fait non. La maltraitance et la manipulation, ce sont des outils pour servir l'objectif, comme je vous disais, de combler ces failles narcissiques, de combler entre guillemets les zones d'ombre ou les zones de désamour que la personne a envers elle-même. Alors ça, la personne n'en a pas forcément conscience. Hein. L'objectif tel qu'il est à peu près conscient à ce moment-là, c'est juste de ne pas montrer de faille, de ne pas montrer qu'on a un défaut, hein, entre guillemets. C'est ça le vrai objectif. D'accord. On ne peut pas taxer les personnes de grands méchants qui cherchent juste à nuire par tous les moyens. Absolument pas, mais malheureusement, au final, les moyens utilisés font qu'il y a une nuisance, une maltraitance et donc finalement une souffrance dans la relation.
D'accord, et j'ai noté également ce désamour dont vous parlez. Est-ce que ça peut être une cause également ?
Oui, alors vous savez, quand on parle de la personnalité, on parle de trajectoire, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne a vécu dès sa naissance, hein, dès sa naissance, même en étant bébé, etc. Ouais. Et puis finalement, ces trajectoires vont déterminer potentiellement des troubles de la personnalité. Et pour revenir à votre toute première question de qu'est-ce que c'est, et je vous parlais de personnalité narcissique, on peut trouver d'autres types de troubles de la personnalité qui vont rentrer un peu dans la case pervers narcissique, comme les personnalités paranoïaques, les personnalités borderline, etc. Et donc finalement, ce qui change réellement, peut-être à un certain niveau, c'est la prise de conscience, hein, de notre fonctionnement quand il est pathologique. C'est pour ça que je préfère parler de fonctionnement, parce que j'aimerais absolument tordre le cou à une idée préconçue. Je suis désolé de tomber dans le stéréotype, mais souvent dans les magazines, les médias, on vous dit, si vous avez un pervers narcissique en face de vous, fuyez. La réalité n'est pas aussi simple. Quelquefois, des gens à fonctionnement de type pervers narcissique peuvent se remettre en question, absolument, d'autant plus que la personne est jeune, d'autant plus que la personne a certaines capacités d'introspection, parce que quand on parle de la personnalité, il est évident que intervenir à l'âge de 25 ans ou 30 ans, c'est pas la même chose qu'intervenir à l'âge de 60 ou 65 ans. Les choses sont un peu plus figées, n'est-ce pas ? Donc, il faut garder en tête que quand il y a une souffrance au sein du couple, après ça dépend d'énormément de facteurs et de déterminants, c'est-à-dire déjà qu'est-ce qu'on entend par couple, comment on envisage la relation, est-ce qu'il y a une hiérarchie à respecter au sein du couple, etc. Enfin, plein de facteurs qui sont, je pense, individuels et propres à chaque couple. Mais au final, quand on a la capacité à se poser au final la question à un moment de pourquoi est-ce que les gens finalement me fuient, pourquoi est-ce que les gens me renvoient une image négative, et qu'on arrive à se rendre compte des choses, oui, le travail sur soi est possible. Bien sûr, moyennant beaucoup d'efforts et pas mal de temps quand même, parce qu'on est en train de parler de déconstruire certaines choses et de construire des choses autres, un peu plus équilibrées. Et voilà. Donc c'est, moi, c'est ça le message. Enfin, en somme, le message, c'est que non, c'est pas vrai. Quand on a quelqu'un qui a un fonctionnement qu'on reconnaît comme étant pervers narcissique, faut pas le fuir. Il y a des choses à mettre en place. On peut demander de l'aide. Il faut s'exprimer. Beaucoup de choses. Et puis, oui, la personne peut initier un changement dans le but de justement, pallier à ces comportements qui sont maltraitants.
Parfait. Alors, quand on parle de fuir ou de demander de l'aide, c'est que forcément, il y a un risque ou des risques. Alors, jusqu'où peut aller cette personne, ce pervers narcissique?
J'ai envie de vous dire, n'importe qui peut aller, ça peut aller à n'importe quel niveau à un certain moment. Ça dépend des circonstances. Ça dépend de d'autres éléments qui entrent en jeu dans la construction de la personnalité. Et oui, enfin, on peut avoir, vous savez, quand on parle de personnes maltraitantes et surtout quand on parle au sein du couple, avec tout ce qu'on connaît comme chiffre de violence conjugale envers les femmes, etc. Oui, on peut imaginer que ça peut aller jusqu'au pire. Hein, mais le plus souvent, ce qui est constaté, c'est que surtout quand le climat se dégrade au sein du couple, c'est surtout de la vengeance par des moyens indirects. Une pression financière, une pression au niveau social, les histoires de menaces de divorce, etc. Dans une société dont le contexte fait que le divorce reste quand même mal vu, d'autant plus que très souvent il y a une dépendance financière, économique, même affective, vous voyez, donc c'est ça qui arrive le plus souvent, mais qui induit, c'est pas pour autant que ça n'induit pas de souffrance, parce qu'on est en train de parler de situations qui durent des décennies, pour la plupart des personnes qui sont dans ce genre de dépendance, ça peut aboutir au niveau de la personne qui souffre de ce type de relation à beaucoup de dépression, beaucoup de quelquefois même de troubles addictifs, c'est-à-dire à force de vouloir ou de prendre des anxiolytiques pour calmer cette anxiété permanente quand on est face à la personne. Effectivement, d'un point de vue relationnel et surtout le retentissement sur le plan familial, c'est surtout ça peut aboutir à beaucoup de souffrances qui dépendent même de vraies pathologies qui s'installent.
Très bien. Alors à quel moment la prise en charge devient-elle nécessaire, voire même vitale, docteur Lerabi? Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie.
Ça dépend du point de vue, de quel côté on se place, parce que si on se place de la personne qui est en face d'elle,
côtés doivent être pris en charge. C'est bien cela.
Absolument. D'accord. Absolument. Parce qu'il s'agit d'un fonctionnement. Il s'agit d'une relation qui est rentrée dans la toxicité. Il s'agit d'une relation qui a entretenu des habitudes qui sont extrêmement mauvaises. Il s'agit de changer les habitudes du couple sans que le couple explose, entre guillemets. Et c'est ça, c'est en ce sens où c'est difficile, c'est en ce sens qu'il faut intervenir tôt. Parce que quand on arrive à l'épuisement de la personne qui souffre de ce type d'interaction, il n'y a plus que le rejet le plus total. C'est-à-dire même si la personne, si on considère l'hypothèse que la personne qui a ce type de fonctionnement arrive à travailler sur elle et puis arrive à changer, il y a quelque chose qui est cassé de l'ordre de l'affect, parce qu'on est en train de parler d'antécédents de maltraitance au final. Donc c'est pour ça que, surtout au sein de la vie conjugale, il faut intervenir tôt, dès qu'il y a une souffrance de ce type, dès qu'on constate des éléments de ce genre, en discutant, c'est très important. On peut pas changer quelqu'un contre son gré, c'est absolument impossible. Donc il s'agit de faire prendre conscience à la personne de certains de ses comportements et d'arriver avec bienveillance, c'est important, de l'inviter à se prendre en charge. Tandis que justement quand les choses traînent, cette bienveillance n'existe plus. Et puis à ce moment-là, même quand on demande à la personne peut-être d'aller consulter, etc. Oui,
justement, c'est la réaction de ces personnes en général, d'après votre expérience. Donc, est-ce qu'elles acceptent justement qu'on leur dise il faut aller voir un psychologue.
Dans l'immense majorité des cas, non.
D'accord.
J'insiste, dans l'immense majorité des cas, non. Ce sont des cas relativement rares hein, où la personne arrive...
Qui est consciente.
Voilà, mais avec une réelle bienveillance, parce qu'il y a quelquefois des gens qui acceptent juste pour prouver à l'autre qu'il a tort.
D'accord. Hein,
c'est une instrumentalisation de la consultation à ce moment-là. Hein, mais voilà, mais c'est vrai que malheureusement, c'est le cas le plus fréquent, c'est qu'il y a un refus clair et net.
Parfait. Vos conseils, peut-être, vous en tant que psychiatre, docteur Othmane Lorabi, vos conseils à toutes ces personnes qui nous écoutent peut-être et qui en souffrent aujourd'hui?
En fait, mon conseil, c'est que il faut replacer tout dans son contexte. Je pense qu'aujourd'hui, surtout dans cette période de pandémie ou de post-pandémie, j'espère, on a beaucoup souffert d'un point de vue relations sociales.
C'est ça.
Et quelquefois, aujourd'hui, on trouve des gens qui, donc en initiant de nouvelles relations, vont se retrouver à tout de suite accepter beaucoup de choses qu'elles n'acceptent pas réellement, à se laisser dominer alors qu'elles ne voudraient pas, des choses comme ça, parce que justement on a souffert de la solitude, de l'isolement, etc. Et il faut pas faire ça, il faut rester soi-même, il faut pouvoir dire non quand les choses nous paraissent exagérées, faut pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà, c'est ça ce que je dis.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Othmane Lorabi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie à Casablanca. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Médian.
Merci à vous.
Et à très bientôt. C'est un entretien réécoutable sur notre site, médian.com.